Mon révérend père, mes bien chers frères, l'évangile que l'Église nous présente aujourd'hui raconte cet épisode bien connu de la tempête apaisée. Épisode bien connu qui s'inscrit dans la ligne des nombreux miracles accomplis par notre Seigneur et qui nous sont racontés tout au long de ces dimanches après l'Épiphanie. Ces miracles sont historiques, bien sûr, ils ont attesté et attestent encore la divinité du Christ. Mais il faut bien comprendre qu'ils représentent et qu'ils signifient aussi de grandes vérités et de grands principes de la vie de l'Église et de la vie chrétienne en général. Alors, sans nous arrêter à un aspect purement extérieur et spectaculaire, essayons de pénétrer la signification du miracle qui nous est présenté aujourd'hui. Essayons d'en connaître la vérité pour la vie du Christ elle-même et pour notre vie à nous. Ecchemotus manius factus est in mari. Voici, une grande tempête s'élève dans la mer. Comment a-t-elle pu naître? Certainement pas par hasard. Tous les événements, bien sûr, sont ordonnés par Dieu, et plus particulièrement ceux de la vie du Christ. Notre Seigneur ne pouvait pas ignorer que cette tempête allait se produire. En tant que Dieu, il le savait de toute éternité, on peut même dire qu'il en était la cause. Et en tant qu'homme, il pouvait la prévoir d'avance. Il la prévoyait dans sa vision béatifique, puisque avant même son ascension, avant même sa résurrection, il nous faut l'affirmer, avant même sa résurrection, notre Seigneur voyait Dieu face à face. Et en Dieu, il voyait toute l'histoire du monde. Il la connaissait également dans sa science infuse, puisqu'il connaissait, de manière infuse, également toute science. Ainsi donc, le Christ savait que cette tempête allait se produire. Cette tempête n'a pas pu le surprendre et l'affolement des disciples ne l'a certainement pas surpris non plus. Et comme sa volonté humaine était entièrement soumise à la volonté de Dieu, on peut même dire que non seulement il a prévu cette tempête, mais qu'il l'a désirée, qu'il l'a voulu. On pourrait dire en quelque sorte qu'il l'a fait exprès. Alors pourquoi? Pourquoi? Pourquoi notre Seigneur a-t-il voulu? Pourquoi Dieu a-t-il voulu que cette tempête se produise? Saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire, nous donne trois raisons. Cette tempête survient effectivement de par ordination de Dieu, d'abord pour apprendre l'humilité aux apôtres. Les apôtres ne devaient pas s'exalter. Il est bon et il est nécessaire d'éprouver sa propre faiblesse pour prendre conscience concrètement que l'on n'est rien. Les apôtres étaient sans doute fiers d'appartenir au Christ Jésus, d'être les apôtres, les messagers du Messie. Eh bien, ils devaient être instruits d'humilité. Les obliger à appeler au secours, leur faire éprouver la crainte de sombrer, valait mieux qu'un long discours sur l'humilité. Discours sur l'humilité que le Christ ne manquera pas de donner, mais plus tard. C'est la première raison. Instruire pratiquement les apôtres dans l'humilité. Une seconde raison est donnée. C'est que les apôtres devaient apprendre à vivre et à vaincre dans les périls, dans les dangers. Les apôtres devaient être confrontés plus tard à la passion de notre Seigneur et puis après aux multiples persécutions de la part des gentils et de la part des juifs et de la part des faux frères. C'est ce que nous dit saint Paul dans son épître. Periculis influminum, periculis latronum, periculis degenere. Danger sur les fleuves, danger de la part des brigands, danger de la part des juifs, danger de la part des païens. Danger dans la ville, danger dans le désert, danger sur la mer et danger de la part des faux frères. C'est à ceci que tous les apôtres, tous sans exception et pas seulement saint Paul, ont été confrontés. Eh bien, il faut qu'ils y soient préparés. Alors notre Seigneur les y prépare, non pas par des discours. Les discours viendront plus tard, les grâces d'État viendront plus tard. Mais le Christ est un bon pédagogue. Et pour l'instant, c'est l'heure, pourrait-on dire, de l'initiation pratique. Et puis enfin, il y a une troisième raison, c'est que les apôtres devaient prêcher notre Seigneur et ils devaient s'appuyer sur les miracles. Leur foi et leur prédication devaient être fondées sur ces miracles qu'ils avaient vus. Ils devaient en être les témoins. Il fallait que ces miracles produisissent en eux une certitude inébranlable. Certitude inébranlable, en effet, parce qu'une tempête réduite au calme par la seule voix du Christ montre bien que cette voix est celle de celui dont la parole a fait le ciel et la terre. Ainsi donc, trois raisons sont données pour que cette tempête se produise. Instruire les apôtres d'humilité, leur apprendre à vivre et à vaincre dans le danger, et enfin fonder une certitude de foi inébranlable. Mais avant de produire ce miracle, le Christ dort. Non seulement il y a la tempête, mais notre Seigneur fait exprès de dormir. Pourquoi ? Il est clair qu'ainsi, il appuie l'épreuve de ses apôtres. Ceux-ci se trouvent en quelque sorte entre la crainte et l'espérance. En effet, une épreuve doit durer pour être salutaire. L'épreuve doit durer pour être salutaire. Alors notre Seigneur dort pour faire durer l'épreuve. Et puis en même temps, dans ce sommeil, le Christ montre sa double nature. Il est Dieu et il est homme. Et parce qu'il est homme, il doit dormir, comme nous autres, comme nous tous, pour se reposer de sa fatigue. Mais parce qu'il est Dieu, le bruit d'une tempête ne l'inquiète pas. Et le désarroi des apôtres ne l'inquiète pas non plus. On peut imaginer ce désarroi du reste avec un certain comique. Eh bien, ceci ne dérange pas notre Seigneur, parce que le Christ tient tout en sa main et il peut apaiser les hommes comme les éléments matériels. Et cela, il le peut même en dormant. Et c'est pourquoi il peut dire à ses apôtres « Quid timidi estis modice fidei ?» Pourquoi êtes-vous timorés, hommes de peu de foi ? Hommes de peu de foi, en effet, car ils auraient dû croire que le Christ, tout en dormant, pouvait apaiser la tempête. Eh bien, cette petite aventure des apôtres, nous en doutons bien, ne nous instruit pas seulement de leur vie, ce n'est pas seulement une histoire, un épisode de la vie de notre Seigneur, mais c'est aussi une représentation de la vie de l'Église et une représentation de notre vie personnelle. Parce qu'en effet, des tempêtes, il n'y en a pas seulement dans la mer, mais il y en a partout. Que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée, la tribulation est toujours présente, dans l'Église comme dans la société politique. Nous voyons sans cesse des difficultés et des troubles. Et les plus terribles, partout, sont toujours les troubles intérieurs. L'Église est attaquée de l'extérieur et de l'intérieur. Et la vie quotidienne, la vie professionnelle, la vie économique, la vie familiale, nous réserve toujours et quotidiennement des difficultés. Il y a les oppositions étrangères et il y a les discordes intérieures. Et ceci est vrai de toute société, et même d'une communauté religieuse. Et puis enfin, il y a les épreuves intimes, les épreuves de la vie intérieure, et celles-ci sont les plus terribles. Et sainte Thérèse d'Avila dit bien, du reste, que les gens du monde s'imaginent que les contemplatifs n'ont pas d'épreuves. C'est exactement le contraire. Les épreuves intérieures des contemplatifs sont bien plus terribles que les épreuves du monde. En tout cela, nous devons voir que notre vie est chargée d'épreuves. Eh bien, nous devons savoir, à l'image de ce miracle, que s'il y a des causes naturelles, s'il y a la faiblesse et la malice humaine, il y a aussi et par-dessus tout la providence. Comme pour les apôtres, la tempête a ses raisons. Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve ? C'est la question que nous nous posons sans cesse. Eh bien, pourquoi Dieu permet-il l'épreuve ? Cette question n'a pas d'autre réponse que celle que nous avons vue. Nous devons vivre dans l'épreuve pour apprendre l'humilité. Parce que dans l'épreuve, dans la tempête, nous éprouvons notre faiblesse. Les moyens humains nous abandonnent et nous sommes obligés alors de nous reconnaître de petits enfants dans les mains du bon Dieu, quelles que puissent être nos qualités humaines. Et ceux qui sont les plus faibles sont les plus humbles. L'épreuve aussi, comme les apôtres, nous apprend à vaincre et à vivre dans le danger, dans les périls. Et c'est le lot du vrai chrétien. Un chrétien doit avoir des épreuves. Il est même nécessaire qu'un bon chrétien ait plus d'épreuves qu'un chrétien médiocre. Il faut nous garder d'une vision trop passive de la vie chrétienne. La vie chrétienne est un combat et une épreuve continuelle. Combat contre nous-mêmes, combat contre Satan et contre le monde. Combat moral, combat spirituel, combat doctrinal et apostolique, et même parfois aussi combat temporel. Et c'est ainsi que nous conquérons la gloire des cieux. La gloire est au terme. Et dans la vie naturelle, on dit bien qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il en est de même dans la vie surnaturelle. Une vie chrétienne sans épreuve est une vie médiocre. Et c'est pourquoi la vie de l'Église aussi doit avoir ses épreuves. Et on peut dire que la crise de l'Église a commencé au premier siècle et qu'elle s'achèvera à la fin du monde. C'est pourquoi on peut dire aussi qu'une époque comme celle que nous vivons actuellement est magnifique, puisqu'elle nous oblige, elle nous pousse peut-être à faire preuve de plus de force et de plus d'héroïsme. Nous devons comprendre que l'épreuve et que la lutte font partie de la vie chrétienne. Regnum celorum vim patitur, et violenti rapiunt elund. Le royaume des cieux souffre violence, et ce sont les violents qui l'emportent. Alors il nous faut apprendre à assumer l'intégralité de la vie chrétienne avec ses épreuves, les épreuves qui en sont inséparables. Le mur des lamentations, ça n'existe pas dans la religion catholique. Ça existe dans d'autres religions. Et le confessionnal n'est pas un bureau des réclamations. Il nous faut apprendre à assumer les épreuves de la vie chrétienne. Cela fait partie de notre éducation surnaturelle. La troisième raison pour laquelle il y a des épreuves, à l'image de ce miracle, c'est que la tribulation fortifie notre foi. Nous éprouvons d'autant plus la puissance de Dieu qu'elle se manifeste en nous sauvant des plus grands périls. Oui, il faut que les dangers soient très grands, que l'épreuve soit terrible, pour que la puissance de Dieu éclate au grand jour. Et c'est peut-être une des raisons de la situation de l'Église, que Dieu permet pour manifester, quand il lui plaira, de manière plus éclatante, sa puissance infinie. Pendant l'épreuve, nous pouvons dire aussi que Dieu semble dormir. Cela nous arrive souvent. De dire que nos prières ne sont pas exaucées, que les choses deviennent pires. Il semble que Dieu nous abandonne. Mais c'est précisément là où nous avons l'impression d'être abandonnés de Dieu que nous croissons en foi et en espérance. Nous sommes obligés de vivre de foi et d'espérance théologale parce que nous sommes abandonnés de toute consolation humaine et de tout espoir humain. Ceci est nécessaire. Et plus nous avançons vers Dieu, plus la nuit doit se faire obscure. Jésus disait bien à Sainte Thérèse d'Avila, « C'est ainsi que je traite mes amis. » Et puis le moment de la délivrance viendra, soyons-en sûrs. Mais malheureusement, bien souvent, au moment de la délivrance, nous pourrons entendre notre Seigneur nous dire « Quid timidi estis modice fidei ?» Eh oui, nous aussi nous sommes timorés. Nous aussi nous sommes timorés. Nous devons savoir, nous devons croire que Dieu est présent au centre de la tribulation. Nous ne devons pas avoir peur. Et c'est le reproche que notre Seigneur peut nous faire. Catherine de Sienne demandait à notre Seigneur « Où étiez-vous, mon Seigneur, quand mon cœur était tourmenté par tant de turpitude ?» Et notre Seigneur de répondre « J'étais dans ton cœur. Je me cachais à l'intérieur et je te laissais dans le trouble à l'extérieur. » Oui, nous devons croire que Dieu est au principe, est au centre de notre lutte. Et nous devons éprouver le danger, le désarroi, pour être conduits à un plus grand acte de foi. Hélas, malheureusement, nous avons tous tendance, toujours tendance, à juger les choses, à juger les décisions de la Providence comme nos pauvres décisions humaines, à l'image de nos décisions humaines. Et en pratique, nous sommes bien souvent sinon des pélagiens, du moins des molinistes. Le sommeil de Dieu est nécessaire pour nous pousser à l'acte de foi. Le sommeil de Dieu est nécessaire aussi pour nous faire éprouver la réalité de notre nature humaine. La réalité de la nature humaine de l'Église, car l'Église est divine et humaine, et notre vie chrétienne aussi est divine et humaine. Le surnaturel n'enlève pas le naturel. Nous sommes baptisés, nous sommes en état de grâce, mais nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des purs esprits. Et bien souvent, l'épreuve survient, l'échec survient, parce que l'on a agi au mépris des règles de la prudence. Parce que l'on s'est appuyé exclusivement sur la prière, par une fausse espérance qui n'est qu'une présomption, en masquant une véritable paresse. Parce que les chrétiens ont peur, parce qu'ils ont peur d'agir, alors l'épreuve peut survenir aussi pour des raisons naturelles. Sainte Jeanne d'Arc disait bien, les hommes d'armes batailleront et Dieu enverra la victoire. C'est Dieu qui envoie la victoire, mais il ne l'envoie pas sans bataille. Alors il nous faut nous garder aussi de l'idéalisme spirituel et ces échecs et ces épreuves sont bonnes pour nous obliger à garder les pieds sur terre. L'épreuve est souvent un choc en retour du réel, tout simplement. Alors essayons de comprendre ce miracle pour nous-mêmes. Comprenons dans nos épreuves la main de Dieu qui nous conduit, qui nous fortifie. Comprenons que ces épreuves sont faites pour notre croissance surnaturelle et soyons forts dans l'épreuve. D'où tirerons-nous cette force? D'abord de l'oraison et de la contemplation. Par la foi et par la sagesse, il nous faut tendre à voir les choses comme Dieu les voit, certain de son secours, fidèle à la fonction que nous tenons dans l'Église. À cet égard, sachons imiter l'attitude de saint Paul. Pour saint Paul, notre Seigneur n'a même pas daigné calmer la tempête, puisqu'il a fait bel et bien naufrage. Il a toujours gardé l'espérance et la confiance. Eh bien, soyons forts, nous aussi, pour affronter la nuit. Et demandons à la très sainte Vierge Marie de nous éclairer, de nous donner cette confiance. Et comme le dit saint Bernard, regardons vers cette étoile qui brille dans la tempête. Lorsque vous assaillent les vents des tentations, lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur, regardez l'étoile, invoquez Marie, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le directeur, mes révérends pères, messieurs, mes bien chers frères, cette fête de la purification est la clôture de toute la période de Noël. Nous avons célébré cette fête il y a 40 jours. Et pendant ces 40 jours où la crèche est restée présente parmi nous, nous avons vécu dans l'adoration et dans l'intimité du Verbe incarné. 40 jours prolongent Noël comme il y a 40 jours de Pâques à l'Ascension. La célébration du mystère de Noël s'achève donc aujourd'hui et la liturgie, par conséquent, est comme un résumé du mystère de l'incarnation. C'est pourquoi les antiennes des premières vêpres du 2 février sont celles de la circoncision au 1er janvier. Ô admirabile commercium, ô échange admirable de divinité et d'humanité. Parce que toute notre religion et toute notre vie est fondée sur Jésus-Christ. Nous ne défendons pas une idéologie, une morale ou un idéal. Notre religion est fondée sur quelqu'un, sur une personne vivante aujourd'hui. Et ce quelqu'un, c'est le Christ Jésus. Toute notre foi, toute notre vie spirituelle dépend donc de cette question, qui est Jésus-Christ. Toute notre foi, toute notre vie spirituelle, toute notre religion dépend de la recherche de Jésus-Christ. C'est à cette question que nous essayons de répondre pendant ces 40 jours. C'est cette recherche de Jésus-Christ que nous essayons d'accomplir pendant ces 40 jours qui suivent Noël. Comment y répondre ? Nous pouvons essayer d'y répondre par la sacrée théologie. Nous essayons de découvrir l'homme-dieu, le Dieu fait homme. Deus verus, de Deo vero, vrai Dieu né du vrai Dieu, homo factus, fait homme. Nous exposons alors qu'il y a union dans la personne, et non pas dans la nature. Union que nous appelons hypostatique, ni substantielle, ni accidentelle, tout en donnant un peu des deux à la fois. Et en définitive, nous devons avouer que notre langage et que nos concepts sont impuissants et que notre métaphysique se heurte au secret de Dieu. Alors il est une autre manière de répondre à cette question qui est Jésus-Christ. Il est une autre manière d'accomplir cette recherche de Jésus-Christ. Une autre manière qui est pour tous les chrétiens sans distinction. C'est d'entrer et de participer dans les mystères symboliques de la sacrée liturgie. Et voilà pourquoi il y a en clôture du temps de Noël, cette bénédiction et cette procession des cierges. De savants historiens pourront sans doute nous montrer qu'il y a là quelque origine païenne. Mais peu importe, si la Providence a préparé le monde gréco-latin pour qu'il donne sa chair à l'Église, il ne faut pas nous étonner qu'il puisse y avoir parfois des analogies. Mais cette fête de la chandeleur, cette fête des chandelles, cette fête de la lumière est une cérémonie sacrée. Ce n'est pas du folklore, encore moins de la publicité. Alors que symbolise cette cérémonie? Que nous fait-elle vivre en nous-mêmes? Que signifient ces cierges et cette procession? Le cierge, nous le savons, représente le Christ. La cire provient de l'abeille ouvrière, celle qui ne connaît pas l'accouplement, celle qui demeure vierge. La cire est la chair virginale du Christ, issue de la Vierge Marie. La mèche, qui est le centre du cierge, est l'âme de Jésus-Christ. Jésus est homme comme nous, corps et âme, ayant vécu comme nous, le péché excepté. Il est l'un d'entre nous. Et la flamme, enfin, qui est portée par le cierge, et qui est le but du cierge, car enfin, pourquoi porte-t-on un cierge si ce n'est pour porter une flamme? Eh bien, la flamme est la divinité du Christ. Ce Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, l'Humen déluminé. Cette flamme est la divinité du Christ. Ainsi, comme on ne peut regarder fixement une flamme sans en être ébloui, sans risquer un certain aveuglement, eh bien de même, nous ne pouvons contempler la divinité face à face par notre propre nature. Nos facultés naturelles sont éblouies et enténébrées par le rayonnement de la lumière divine. Voilà pourquoi on peut dire que la lumière représente la divinité du Christ. La lumière du cierge aussi se répand partout. La flamme elle-même est pure et sans mélange, mais sa lumière se diffuse dans tout l'univers. Cette lumière se diffuse dans toute l'Église et donne la vie à tout. La lumière est la vie du monde corporel. C'est par la lumière que les choses prennent vie à nos regards. Mais la vraie vie, c'est la vie du Verbe de Dieu. Parce qu'en lui, tout est vie. Quod factum est in ipso vita erat. Ce qui a été fait était vie en lui. Et omnia per ipsum facta sunt. Et tout a été fait par lui. Tout a été fait par le Verbe. C'est dans son Verbe que Dieu voit sa création. Et dans son Verbe, toute créature est vie. Parce que le Verbe est vie. La flamme répand la vie. Et le Verbe est la vie. Le cierge, c'est non seulement le Christ, mais c'est aussi moi-même, c'est chacun d'entre nous. La flamme prend possession du cierge, elle l'absorbe, elle le transforme en lumière. Le Christ nous est communiqué, le Christ nous absorbe et nous transforme en lui. Et c'est ce que dit saint Augustin, « Tu mutaberis in me, tu seras changé en moi », fait-il dire à notre Seigneur. Le Christ nous change en lui-même. La flamme qui nous est communiquée nous éclaire. Avant d'avoir le cierge allumé, si nous étions seuls, s'il n'y avait que la lumière du cierge, eh bien nous ne verrions rien. Nous ne connaîtrions pas les objets qui nous entourent et notre propre corps lui-même ne serait pas connu. Et c'est par la vue que nous connaissons le plus de choses. De même, c'est le Christ, c'est le Verbe de Dieu qui est au principe de toute connaissance. C'est lui qui illumine notre intelligence. Erat lux vera qui illuminat omnem hominem. Il était la vraie lumière qui illumine tout homme. Lux vera veniens in mundum. La vraie lumière qui vient dans le monde. Ainsi peut-on comprendre, selon le texte grec, l'évangile de saint Jean. La vraie lumière qui ne cesse de venir dans le monde. Car c'est du Verbe que toutes choses tiennent leur nature. C'est du Verbe que toutes choses tiennent leur essence. Et c'est par conséquent du Verbe que toutes choses peuvent être connues. Omnia in ipso condita sunt. Toutes les choses ont été fondées en lui. Telle est la vérité de notre intelligence également. C'est du Verbe de Dieu que notre intelligence tient sa force et sa puissance qui lui permet de pénétrer l'essence des choses. Et saint Augustin de dire, la terre, si elle n'est éclairée par la lumière, ne peut pas être vue. Et pareillement, les enseignements des diverses sciences et de la théologie en particulier, tout cela ne peut pas être compris s'il n'y a pas l'éclairage de Dieu, si tout cela n'est pas éclairé par Dieu comme par un soleil. Ceci est vrai de toute vérité naturelle, et à plus forte raison, de toute vérité surnaturelle. C'est par cette lumière que, nous dit saint Augustin, que voyait Tobie, quand privé des yeux de son corps, il enseignait à son fils la route de la vie, et l'y précédait, marchant du pas de la charité, sans s'égarer jamais. C'est cette lumière que voyait Isaac quand, malgré le voile pesant que la vieillesse avait abaissé sur ses yeux de chair, il mérita non pas de bénir ses enfants en les connaissant, mais de les connaître en les bénissant. La vraie lumière, la voilà, elle est une, elle ne fait qu'un avec tous ceux qui la voient et qui l'aiment. Ainsi s'exprime saint Augustin. Et la vision béatifique n'est pas autre chose qu'une illumination par le Verbe de Dieu. Car alors nous verrons tout au paradis, nous verrons tout dans le Verbe de Dieu. Pour tout cela, on peut dire que cette flamme qui est sur le cierge, c'est le Verbe de Dieu. Verbe de Dieu incarné, comme la flamme est portée par le cierge. Verbe de Dieu communiqué, comme la flamme fait vivre le cierge. Mais cette flamme du cierge ne reste pas immobile. Ces cierges allumés ne demeurent pas dans l'Église. La flamme quitte le sanctuaire, elle se communique à tous les cierges de l'Église, et puis ses lumières quittent l'Église. Elle la quitte, non pas en désordre, mais en ordre, en hiérarchie, pour se répandre à l'extérieur et pour enfin revenir au sanctuaire. De même, le Verbe sort de la Trinité, sans cesser pour autant d'y demeurer, et il est donné au monde dans l'incarnation. Et en s'incarnant, en se communiquant, il fonde l'Église. L'Église commence à vivre quand Jésus-Christ se communique. Notre Église de pierre commence à vivre, elle aussi, quand la flamme descend du sanctuaire pour s'y répandre et en illuminer toutes les parties. Mais ces lumières ne restent pas dans l'Église, elles en sortent, elles vont à l'extérieur, elles déploient la lumière à l'extérieur. Comme l'Église se répand dans le monde, elle répand la lumière. Elle révèle le monde à lui-même, comme le Christ a révélé le monde à lui-même. Elle révèle sa corruption, elle révèle la vérité, elle repousse les ténèbres de l'erreur. Lumen ad revelationem gentium. Lumière pour tous les peuples. L'Église du Christ est pour tous les peuples. Le Christ est la lumière de tous les peuples, pas seulement du peuple ou du pays où nous habitons, pas seulement pour les peuples d'Europe, pas seulement pour ceux qui sont de culture latine. Il n'y a qu'une religion d'une extrémité du monde à l'autre, il n'y a qu'une lumière que les ténèbres de l'hérésie et des paganismes ne peuvent étouffer. Et tenebrae eam non comprehenderunt. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Lumière pour tous les peuples, pour toutes les parties des peuples, pour les plus jeunes comme pour les plus âgés, pour les chefs comme pour les sujets, pour les lettrés comme pour les artisans. Et enfin, ces lumières reviennent vers le sanctuaire. L'Église revient à son principe. Le Verbe est venu en ce monde. Par son incarnation, il a fondé l'Église, il s'est incorporé l'Église et il revient avec elle vers la Trinité. La lumière attire et conduit vers Dieu. La lumière portée par les chrétiens conduit vers la lumière de Dieu. Et tous ces élus entrent avec leur tête, qui est le Christ, dans la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, dont l'agneau est la seule lumière. Et civitas non eget sole. Et cette cité n'a pas besoin de soleil, elle n'a pas besoin de la lune pour qu'elle soit illuminée, car la clarté de Dieu l'illumine, et la lampe qui y brûle, c'est l'agneau. Cette procession des cierges, c'est donc celle de l'Église qui procède du Verbe incarné et qui répand la lumière dans le monde et qui marche avec lui vers la céleste Jérusalem. Puissions-nous vivre quotidiennement de ce que nous célébrons dans ces solennités liturgiques. Age quod agis, imitamini quod tractatis. Imitons ce que nous faisons, ce que nous agissons. Vos estis lux mundi. Vous êtes la lumière du monde, nous dit notre Seigneur. C'est à nous tous, qu'il appartient que la vérité du Verbe soit connue à l'extérieur du sanctuaire. Sic lux vestra luceat corum minibus. Que votre lumière brille aux yeux des hommes. La doctrine chrétienne éclaire et dissipe toutes les questions du monde, toutes les questions du monde présent, aussi bien celles qui sont au fond des consciences que celles qui sont débattues publiquement. Ces grandes vérités sont particulièrement actuelles aujourd'hui, et nous voyons bien que le monde est en train de mourir à tous les points de vue, aussi bien spirituellement que matériellement, parce qu'il ignore la vérité dont nous sommes dépositaires. Nous sommes dépositaires de la lumière du Verbe, et c'est ici, je dis ici même physiquement, que la tradition est vécue et enseignée. Nous sommes lumière pour illuminer le monde. Nous devons rechercher toujours cette illumination qui nous est donnée dans la théologie rationnelle, mais aussi dans la théologie symbolique, c'est-à-dire dans la Sainte Liturgie, et puis enfin dans la théologie mystique qui se vit auprès du Saint Tabernacle. Si seulement nous pouvions comprendre ce que nous sommes, il n'y aurait pas en nous, dans notre vie, dans nos conversations, dans nos affections, tant de choses profanes. Notre vie doit, devrait, se consumer en lumière comme un cierge. Comprenons alors en cette fête de la purification que pour être illuminé, il faut être purifié. C'est pour cela que Marie est lumière, c'est parce qu'elle est immaculée. Un cristal ne peut refléter la lumière et être plein de lumière que parce qu'il est purifié. Eh bien, Marie est immaculée et c'est pour cela que la divinité y déverse toute la lumière en plénitude. Elle est pleine de grâce. Elle est celle, comme dit le Cantique des Cantiques, qui s'avance comme une aurore qui se lève dans notre monde de ténèbres. C'est par Marie que le monde sera éclairé. C'est par nous, si nous nous laissons conduire par la très sainte Vierge, que le monde sera éclairé. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monseigneur, Monsieur le Directeur, mes révérends pères, mes chers amis, on dit que les saints sont plus admirables qu'imitables, et ceci semble encore plus vrai pour les grands docteurs de l'Église, dont la science nous domine, et que nous ne saurions prétendre imiter tant soit peu de ce point de vue. Pour saint Thomas, ce n'est plus seulement l'imitation qui pose un obstacle, mais c'est même la sincérité, c'est la réalité même de l'hommage qui est en question. Oui, beaucoup, et de tous les horizons, osent se déclarer, sinon ses disciples, du moins déclarer leur admiration. On célèbre en saint Thomas un monument, un vestige de la pensée médiévale, comme une pièce de musée. Le Moyen-Âge est aujourd'hui à la mode, semble-t-il. Alors saint Thomas est à la mode. Sa doctrine est un édifice magnifique, implacable, de rigueur logique, scientifique, mais un édifice mort, étranger à notre époque, souvenir glorieux d'un temps révolu. Mais comme une telle lumière ne s'éteint pas si facilement, alors il y a quand même beaucoup de disciples. Saint Thomas, semble-t-il, est une référence pour beaucoup, au point que même le Concile Vatican II et même le nouveau droit canon osent s'en réclamer et le nomment explicitement. Oui, il y a beaucoup de thomistes en nom, mais y en a-t-il beaucoup en réalité? Et nous-mêmes, sommes-nous véritablement des disciples de saint Thomas, des disciples du docteur, et plus encore, bien sûr, des disciples du saint? Puisons-nous vraiment chez lui non seulement des thèses, des énoncés, mais véritablement la vie intellectuelle? Puisons-nous le sens de la vie surnaturelle, le sens de la vie chrétienne, le sens de notre apostolat, le sens de notre sacerdoce? Pour être vraiment disciples et fils de saint Thomas, il ne suffit pas de réciter ses thèses, mais il faut les vivre. Il faut les connaître en profondeur. Il faut connaître vraiment et vivre de l'esprit de saint Thomas. Alors essayons de comprendre cet esprit de saint Thomas. Essayons de comprendre concrètement saint Thomas tel qu'il fut, docteur et saint. Docteur et saint pour le XIIIe siècle et pour aujourd'hui. Saint Thomas, comme docteur, n'eut pas la tâche facile. Vouloir, à la suite de saint Albert le Grand, introduire Aristote dans la science sacrée, c'était à l'époque une innovation. Une innovation, une aventure qui risquait fort mal de se terminer pour un jeune clerc, car c'était s'opposer à tout un usage, à toute une coutume, à toute une tradition. Car jusqu'alors, si une philosophie avait été admise, c'était plutôt la philosophie de Plotin, transformée par saint Augustin. Et Aristote, plus ou moins déformé par les commentateurs et les traducteurs, faisait figure de matérialiste, partisan de l'éternité du monde et de la corruptibilité de l'âme humaine, plus ou moins polythéiste, semblait-il. Et certains admirateurs indiscrets du philosophe mettaient en question les données mêmes de la foi. Autrement dit, l'avéroïsme latin ne faisait que renforcer opinion commune hostile à Aristote et appuyée par des décisions même de l'autorité ecclésiastique. Et bien malgré cela, risquant ainsi une brillante carrière universitaire, mais aussi, il faut le dire, en toute obéissance, enthousiasmant ses étudiants d'une part, mais d'autre part s'attirant les foudres de tous les côtés, refusant l'hostilité sectaire des soi-disant augustiniens, refusant le rationalisme des avéroïstes, saint Thomas entreprend de découvrir et de révéler le véritable Aristote. Saint Thomas, oui, prend parti. Et cette controverse ne sera pas achevée avant sa mort. Ce qui nous semble aujourd'hui évident était alors très controversé. Saint Thomas, autrement dit, n'a rien de ces intellectuels qui se croient supérieurs parce qu'ils ne prennent pas parti. Et saint Thomas prenait parti, il était fidèle à la vérité quoi qu'il en coûte. Et que ce soit pour Aristote, que ce soit pour la défense des religieux mendiants ou pour d'autres raisons, saint Thomas prend parti. L'université de Paris n'est pas exemple de controverses très dures, de batailles acharnées, batailles qui n'étaient pas seulement intellectuelles, au point que, une fois, Saint-Louis dut même envoyer les CRS de l'époque protéger l'école des Dominicains. Eh bien, dans cette controverse, dans cette bataille pour Aristote, saint Thomas a rendu un service immense à l'Église. Que se serait-il passé sans lui? On peut essayer de le prévoir, il y aurait peut-être eu une cassure, peut-être un schisme ou une première révolution résultant de l'opposition entre, d'une part, une science rationaliste, dite aristotélicienne, et d'autre part, une tradition sectaire et sclérosée. Eh bien, Dieu a suscité saint Thomas pour poursuivre l'œuvre de la tradition théologique, c'est-à-dire pour unir et subordonner la science à la foi. Cette attitude de saint Thomas n'est-elle pas un exemple pour nous aujourd'hui? Face à ceux qui veulent subvertir la tradition par la philosophie moderne, apostate, ces philosophies modernes, apostates, héritières de Kant, de Descartes, et aussi de la scolastique décadente, eh bien, nous opposons le discernement de saint Thomas. Suivre saint Thomas aujourd'hui, ce n'est pas baptiser les philosophies modernes comme saint Thomas a baptisé Aristote. Suivre saint Thomas aujourd'hui, c'est constater que ces philosophies modernes sont incompatibles avec la foi catholique. Mais si, en suivant saint Thomas, nous savons discerner comment la pensée moderne est contraire à la foi, nous acceptons cependant les questions qu'elle pose. Nous ne refusons pas les problèmes actuels. Nous ne refusons pas ce que peut apporter la science contemporaine. Nous ne refusons pas ce que peuvent apporter les recherches historiques. Nous ne refusons pas non plus les moyens techniques qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. Eh bien, à cet exemple, nous suivons saint Thomas. Et nous essayons un peu de vivre le conseil que lui-même donnait dans les 16 Sex Jeti Monita. Non respicia saco audias, sed quid bonidicatur, memoria recommenda. Ne regarde pas de qui tu l'entends, mais tout ce qui est dit de bon, garde-le en mémoire. C'est pourquoi nous n'avons pas peur du monde moderne. Et nous savons que être surnaturel ne veut pas dire être sous-naturel. C'est à ce prix que notre combat sera véritablement offensif et pourra déboucher sur une authentique restauration. Devons-nous dire alors que saint Thomas reçut purement et simplement Aristote, qu'il ne fit que répéter, que recevoir Aristote? Eh bien, oui et non. Pour lui, le philosophe, c'est bel et bien Aristote. Et la philosophie de saint Thomas, c'est bel et bien la philosophie d'Aristote. Mais saint Thomas n'est pas un disciple servile et répétiteur, comme les avéroïstes. Saint Thomas développe la pensée d'Aristote, il l'enrichit, et au besoin, il la rectifie. Et puis surtout, et c'est là une différence essentielle, c'est la différence essentielle entre saint Thomas et Aristote, c'est que saint Thomas n'est pas un philosophe. Saint Thomas est un religieux, est un contemplatif, et donc un théologien. Et certes, il distingue soigneusement la philosophie et la sacrée théologie, puisque la théologie s'appuie sur la révélation, tandis que la philosophie ne peut pas s'appuyer sur la révélation. Mais en fait, la philosophie ne l'intéresse pas. La philosophie n'intéresse pas saint Thomas. Ce qui l'intéresse, c'est le mystère de Dieu. Et la philosophie n'a pas d'autre but que d'être une servante de la théologie, laquelle théologie est elle-même au service de la charité et de la vie mystique. Et ce déplacement de perspective, ce changement de perspective, entraîne un changement considérable de la philosophie. Parce que pour Aristote, la théologie naturelle n'est qu'un aspect de la philosophie. Aspect le plus difficile, sans doute. Tandis que pour saint Thomas, toute la spéculation philosophique converge vers la théologie naturelle. Et la théologie naturelle elle-même est préparatoire à la théologie sacrée. Tout converge vers la théologie et tout s'ordonne par rapport à la théologie. Et ce regard contemplatif va conduire saint Thomas à découvrir des réalités naturelles et métaphysiques, des réalités purement rationnelles qu'Aristote lui-même n'avait pas vues. Aristote avait vu les quatre causes. Aristote avait vu la substance et l'acte. Aristote avait vu la fin ultime et la première intelligence immuable. Mais Aristote n'avait pas découvert l'acte d'être. Aristote n'avait pas découvert la première cause efficiente et créatrice du monde. Et tout cela, c'est saint Thomas qui l'a découvert. Et ainsi, l'œuvre du philosophe se trouve parachevée à plus d'un millénaire de distance, non pas par un philosophe, mais par un humble religieux dont la contemplation surnaturelle a fécondé même la spéculation purement rationnelle. Et la métaphysique est ainsi transfigurée et offerte à la contemplation théologique. C'est ainsi qu'il nous faut comprendre l'œuvre rationnelle de saint Thomas. Et c'est ainsi qu'il faut voir la prétendue opposition entre saint Thomas et saint Augustin. Certes, comme philosophe, Saint Thomas s'oppose à Saint Augustin, comme Aristote s'oppose à Plotin. Mais ni Saint Thomas ni Saint Augustin ne sont des philosophes. Ce sont des docteurs de l'Église. Ce sont des contemplatifs. Et tout l'effort de Saint Thomas est précisément, tout l'effort de Saint Augustin est précisément de mettre la raison au service de la foi et la philosophie au service de la science sacrée. Saint Augustin accomplit cette tâche avec la philosophie dominante de son époque, qui était la philosophie de Plotin, qui l'a du reste considérablement modifiée pour la rendre compatible avec la foi. Eh bien, Saint Thomas poursuit cette œuvre, Rediligens omnem intellectum in obsequium Christi, ramenant, conduisant ainsi, rectifiant tout intellect au service du Christ. En ne considérant Saint Thomas que comme un philosophe, on se méprend donc totalement sur le sens de son œuvre, sur la fonction que lui a assignée la Providence dans l'histoire de l'Église. Saint Thomas est le docteur de l'Église parce qu'il est avant tout un saint docteur, un religieux contemplatif. Et pour entrer dans son esprit, il nous faut alors nous pencher sur sa mystique. Parler de Saint Thomas en mystique est un peu difficile. Nous avons une grande difficulté. C'est que nous savons très peu de choses de lui, semble-t-il. Saint Thomas n'a pas écrit d'autobiographie. Saint Thomas ne parle jamais de lui-même. Comment faire? Eh bien, nous pouvons comprendre quelle fut sa vie intérieure d'après sa doctrine de la vie intérieure, d'après le traité des vertus théologales et le traité des états de vie que nous trouvons dans la Secunda Secundae. À la fin de la Secunda Secundae, dans ce fameux traité des états de vie, Saint Thomas expose l'état de vie qui est le sien, c'est-à-dire l'état de vie de prêcheur, de moine prêcheur. Et cet état de vie, il l'estime supérieur à la vie active et supérieur à la vie contemplative. Et cela peut nous étonner. Quelle raison donne-t-il ? Maius est contemplata alis tradere quam solum contemplare. Il est plus grand de transmettre aux autres ce que l'on a contemplé que de contempler seulement. Mais il ne faut pas se méprendre sur le sens de ces paroles. Saint Thomas ne dit pas que l'apostolat actif est supérieur à la vie contemplative. Ce serait contraire à toute la tradition. Cet état supérieur ne consiste pas dans le simple ministère de prédicateur. Il ne consiste pas à juxtaposer l'action et la contemplation, à la manière des congrégations que l'on appelle semi-contemplatives. Même si l'action est toujours le fruit de la contemplation, ou doit l'être normalement. C'est que le prêcheur, selon saint Thomas, contemple dans l'acte même de sa prédication. Enseigner ou prêcher, l'enseignement n'étant qu'une forme de prédication, suppose que l'on contemple dans l'acte même de traditio veritatis, suppose que l'on contemple dans l'acte même de prédication, et que la prédication ne soit que l'extérieur de la contemplation. Ceci n'est vrai, bien sûr, que si le prêcheur demeure sans cesse dans l'état de vie contemplatif, ce qui suppose la vie et les observances monastiques, ce qui suppose l'office divin chanté au cœur, ou du moins en cœur, même en voyage, même au milieu des tâches apostoliques. Oui, saint Thomas n'est pas un philosophe, saint Thomas est un fils de saint Dominique, chanoine régulier, moine selon la règle de saint Augustin. Saint Dominique lui-même voyageait en silence, sauf raison d'apostolat. On dit qu'il ne parlait qu'à Dieu ou que de Dieu. Et saint Thomas et saint Dominique parlaient très peu. Saint Dominique n'a presque rien écrit, peut-être quelques lettres, quelques constitutions. S'il a laissé une parole, c'est celle de saint Thomas. Le Fils s'est exprimé dans le Père se dit dans le Fils. Et le Fils, comme le Père, sont essentiellement des moines. Dans les actes même de leur apostolat, ils demeurent des moines. Le cloître est toujours présent, sinon physiquement, du moins spirituellement, avec le silence, les observances et la liturgie. Nous sommes bien loin de ces modernes apôtres qui prétextent de leur ministère pour abandonner toute vie régulière et toute liturgie. Et à ce titre, saint Thomas est bien un exemple pour tout prêtre, pour tout missionnaire, et pas seulement pour les universitaires. Le prêcheur est un contemplatif, saint Thomas est un contemplatif. Il est connu, par exemple, que lorsqu'il devait subir une opération douloureuse, dont la faculté d'alors gratifiait fréquemment ses patients, l'anesthésie consistait pour lui simplement à se mettre en prière. L'âme contemplative de saint Thomas, nous pouvons la connaître aussi dans le fait que lorsqu'il entendait chanter le Media Vita, que nous avons chanté hier, et que les dominicains ont accompli pendant tout le carême, eh bien lorsqu'il entendait chanter le Media Vita, saint Thomas pleurait. Son âme contemplative, nous pouvons la voir dans le magnifique office du Saint-Sacrement. Nous pouvons le voir dans le commentaire de l'évangile de saint Jean. Nous pouvons le voir enfin dans le fait que le dernier acte de saint Thomas, lorsqu'il allait mourir à l'abbaye cistercienne de Fossanova, fut de commenter le cantique des cantiques. Pouvait-il y avoir une meilleure préparation à la vision béatifique? Alors essayons de voir comment saint Thomas considérait la contemplation. Pour lui, elle n'est pas autre chose que l'exercice des vertus théologales. C'est la vie chrétienne, c'est la vie de la grâce en plénitude. La contemplation, c'est de connaître et d'aimer Dieu, tout simplement. C'est vivre déjà, par les dons du Saint-Esprit, une anticipation de la vision béatifique. La contemplation est l'exercice le plus élevé de la foi, de l'espérance et de la charité. Ici-bas, la contemplation n'a pas d'autre fin qu'elle-même. Saint Thomas n'a pas une conception utilitariste ou réflexive de l'oraison, et il ne réduit pas la vie surnaturelle au respect d'une morale. Et sa morale elle-même n'est pas un catalogue de prescriptions qui s'impose a priori, elle n'est que l'orientation de l'homme vers sa fin ultime, qui est de vivre de Dieu et de le contempler ici, dans l'obscurité, et plus tard, face à face. En définitive, il n'y a qu'une question qui intéresse saint Thomas, une seule. Et cette question, il la posait déjà à son maître, au Mont Cassin. Qu'est-ce que Dieu? Toute sa vie n'a été qu'une recherche continuelle de la réponse à cette question. Et c'est la réponse qu'il trouva dans la contemplation qui l'empêcha de terminer la somme théologique et qui la lui fit considérer comme de la paille. C'est cette recherche de Dieu qui donne la clé de toute son œuvre, y compris de sa philosophie. Saint Thomas parvient ainsi à cette admiration contemplative dont Aristote lui-même avait eu quelque idée. En métaphysique, alpha 2, celui qui a découvert la cause première jette sur le monde le regard d'admiration et d'étonnement. Il contemple le monde par une vision de sagesse. Et pour saint Thomas, c'est d'une sagesse surnaturelle. En saint Thomas, nous ne vénérons pas la sagesse naturelle et philosophique, mais la sagesse infuse le don du Saint-Esprit, et cette sagesse féconde son œuvre. La doctrine de saint Thomas, faisons bien attention, la doctrine de saint Thomas est incompréhensible sans l'exercice de cette contemplation et sans une intense vie intérieure. Et toutes les oppositions à la doctrine de saint Thomas, que ce soit sur la grâce ou le libre arbitre, que ce soit sur la providence, que ce soit sur la certitude morale, toutes ces oppositions se ramènent en définitive à un manque d'esprit surnaturel et à un manque d'esprit de foi. Si nous voulons vraiment comprendre saint Thomas, il nous faut comme lui chercher la science d'abord au pied du tabernacle. On rapporte du reste que le saint docteur alla jusqu'à s'introduire la tête dans le tabernacle lors de l'étude d'une question difficile. C'est ce qui lui valut sans doute plus tard d'entendre ces paroles. « Bene scripsisti de me, Thomas. Thomas, tu as bien écrit de moi. » Saint Thomas nous laisse donc l'exemple d'une étude, d'une action prédicative, d'une prédication, mais d'une étude et d'une action contemplative. Étude et action ne seront fidèles à l'esprit de saint Thomas que si elles sont imprégnées, informées de contemplation. La sagesse surnaturelle, le don de sagesse, ce n'est pas de juxtaposer l'étude et la prière. La vraie sagesse unifie et ordonne. La sagesse, c'est d'étudier en contemplant et c'est de contempler ce que l'on étudie. Voilà l'exemple de saint Thomas. Et c'est cette sagesse qui, n'en doutons pas, lui permit de discerner chez Aristote et dans Aristote la meilleure servante de la théologie que l'on puisse trouver. Saint Thomas nous sert d'exemple à plus d'un titre. Et si nous voulons, selon les termes de saint Pidis, tout restaurer dans le Christ, eh bien c'est sur saint Thomas qu'il faut nous appuyer. Le monde actuel, nous le constatons tous les jours, s'écroule matériellement et spirituellement. Ce monde est vieux. Vieux d'idéologie qui provoque sa ruine économique et politique. Vieux d'idéologie et d'hérésie auquel personne ne croit plus, sinon les masses médias, et qui laisse dans les âmes, spécialement celles des plus jeunes, le désespoir et la révolte. Quel est l'avenir? Sommes-nous à la veille de grands bouleversements? Nous n'avons pas à répondre à cette question. L'esprit catastrophiste et fataliste est une lâcheté camouflée en piété. Par la doctrine de saint Thomas, nous détenons les clés de tous les problèmes contemporains. Et les défaites successives de la chrétienté sont peut-être dues en partie au fait que l'on a trop ignoré saint Thomas. Notre croisade pour la chrétienté passe par la restauration de l'intelligence catholique selon les principes de la philosophie et de la théologie de saint Thomas. Notre Seigneur a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Saint Thomas a participé éminemment à cette vérité, de sorte qu'on peut dire aussi à son sujet « Veritas de terra horta est », la vérité a germé de la terre. Alors, avec l'action de grâce, nous élevons vers Dieu notre prière pour que nous recueillions les fruits de cette vérité et qu'elle continue de germer et de produire des fruits parmi nous. C'est ce que nous demanderons par l'intercession de saint Thomas et par l'intercession de la très sainte Vierge. La vérité incréée a pris chair de la Vierge Marie. C'est donc à elle que nous devons rendre hommage de notre science et c'est d'elle que nous devons recevoir la sagesse. Cedes sapientiae, ora pro nobis. Mon Père, mes bien chers amis, le Christ Jésus est le souverain prêtre. Il n'est pas le plus grand des prêtres, mais il est l'unique. Il est l'unique prêtre auquel nous participons, nous autres, membres de la hiérarchie sacerdotale. Et c'est pourquoi on peut dire, avec toute la force des termes, selon cette magnifique expression de Don Marmion, que le Christ est l'idéal du prêtre, idéal de notre sacerdoce, modèle de notre apostolat. Eh bien, ne semble-t-il pas, aujourd'hui, que providentiellement, cet évangile du deuxième dimanche après la Pentecôte nous présente un aspect très important de notre vie sacerdotale, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, comme de coutume, comme très souvent, comme la plupart des cas, s'exprime en parabole. Et c'est la parabole du banquet « Homo quidam fecit cenam maniam ». Et dans ce banquet, nous pouvons voir, bien sûr, l'ensemble des biens surnaturels. La vie éternelle est comparée à un banquet, et même ici-bas, la grâce et les sacrements. La vie chrétienne, la vie dans l'Église, est en effet comme un banquet. Il y a la nourriture de l'âme qui est distribuée dans les sacrements, et plus spécialement dans l'Eucharistie. Il y a la joie et l'amitié que l'on peut connaître dans un banquet, qui sont les caractères usuels d'un banquet. Et on pourrait donc ainsi résumer l'apostolat du prêtre comme le fait de convier tous les hommes à un banquet sacré et surnaturel, non seulement pour plus tard, pour l'au-delà, mais pour aujourd'hui. Nous devons donc inviter les hommes au banquet. Nous suivons le premier serviteur qui est Jésus-Christ. Mais il se trouve que ce banquet, les riches n'en veulent pas. Il en est ainsi depuis le péché originel, en fait. Chacun est traîné par sa propre concupiscence, nihil novi sub sole. J'ai acheté une maison. Nous pourrions continuer. J'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai acheté un nouvel IBM. J'ai pris femme. Tous les biens surnaturels ne peuvent pas intéresser ceux qui s'attachent aux biens de ce monde. Et ceci n'est pas nouveau. Mais plus profondément, il n'y a pas que les richesses matérielles qui détournent du royaume de Dieu. Il y a aussi, paradoxalement, les richesses spirituelles. Oui, ceux qui sont riches spirituellement sont appelés les premiers, c'est normal. Et c'est pourquoi l'invitation leur est d'abord adressée. Par leur famille, par leur culture, par leur éducation, par leur tradition, beaucoup sont en principe plus proches des réalités éternelles. C'était le cas des pharisiens, par exemple. Eh bien, ceux-là aussi, c'est curieux, mais ceux-là aussi restent sourds à l'appel de Dieu. Et ils s'illusionnent, ils sont dans l'illusion. Alors, le père de famille appelle d'autres invités. Ces autres invités, ce sont les pauvres et les infirmes, les aveugles, les boiteux. Précisément ceux dont on ne voudrait pas dans un banquet, voyons. Les pauvres apportent leur misère, leur présence est désagréable, elle nuit au plaisir. Elle s'oppose à l'égoïsme. Non, la présence des pauvres dans un banquet n'est pas possible, elle n'est pas admissible. Notre époque le montre bien. De nos jours, il y a peut-être moins de misère matérielle qu'autrefois. Nous avons des moyens techniques qui nous permettent de subvenir aux misères d'autrefois, sans doute. Mais tout de même, notre technique a des limites et il y a des misères, il y a des pauvretés que nous ne pouvons pas changer, que nous ne pouvons pas transformer. Alors aujourd'hui, ces pauvretés-là, on les exclut, on les détruit, on les tue. Et c'est l'euthanasie et c'est l'avortement. Lorsque notre époque actuelle, notre monde moderne ne peut pas guérir la pauvreté, alors il la tue. Tandis que dans les époques de chrétienté, on ne se faisait pas d'illusions, on savait bien que la pauvreté existait, on essayait bien d'y subvenir, on n'y arrivait pas toujours, mais le pauvre avait sa place, il avait même la première place. Oui, dans la ligne de l'Évangile, c'est vrai qu'il y a une certaine option préférentielle pour les pauvres. Tout dépend comment on la comprend. Et de fait, dans les familles chrétiennes, autrefois, il y avait toujours, surtout dans les campagnes, une place pour le pauvre, qui ne manquait pas de venir à l'improviste. Jésus-Christ, et par conséquent le prêtre, a donc une prédilection pour les pauvres. Et c'est ce que nous dit l'épître de Saint Jacques en particulier. Mais il n'y a pas que la pauvreté matérielle, il y a aussi la pauvreté spirituelle. Il y a ces pauvres pécheurs qui sont perdus de vices, d'ignorance et de barbarie. Il y a les pécheurs endurcis qui sont bien contents de leur péché, qui n'en veulent pas sortir. Mais aussi il y a la grande masse de ces pauvres pécheurs qui sont bien englués dans leur misère, mais qui ont tout de même quelques velléités d'en sortir. Alors que d'autres, plus respectables et, de fait, plus vertueux, demeurent dans leur honnêteté pharisaïque, eh bien ces pauvres-là attendent le bon samaritain qui saura les guérir. Pour ces pauvres-là aussi, notre Seigneur a une prédilection. Ces pauvres âmes ont un aspect rebutant. Les vices les dominent, leur réputation est perdue, mais ils gémissent sans oser le dire. Ils attendent Jésus-Christ, elles attendent Jésus-Christ, elles attendent le prêtre. Les pharisiens s'en détournent, mais notre Seigneur les approche. Non veni vocari justos sed peccatores. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et l'Évangile nous donne de multiples exemples. C'est le dialogue avec la Samaritaine qui a eu 5 maris. C'est l'appel de Matthieu, le publicain. C'est la femme adultère. C'est Marie-Madeleine, enfin. Eh bien, ces âmes-là, le Christ ne s'en éloigne pas. Il n'excuse pas le péché, bien au contraire, mais il ne s'en éloigne pas. Non seulement il ne les repousse pas, mais il les approche, il les fréquente. Il se fait inviter à dîner chez elles. C'est un scandale. Oui, c'est un scandale pour la respectable société religieuse de l'époque, pour la société pharisaïque. Parce qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui fait pénitence que pour plusieurs justes qui n'ont pas besoin de pénitence. C'est la parabole de la brebis perdue. Et lorsque les apôtres appellent le feu du ciel sur les villes et sur les personnes qui ont refusé leur prédication, notre Seigneur leur répond : vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Eh bien, nous aussi, nous pouvons nous demander de quel esprit nous sommes. En tout cas, l'esprit du bon pasteur, semble-t-il, est assez clair, est assez évident. C'est l'esprit des saints Dominique et des Jean Bosco. C'est l'esprit de tous les missionnaires. Le prêtre de Jésus ne peut pas s'enfermer dans une clientèle bien pensante. Il va au-devant des pécheurs. Il ne peut pas se réjouir du petit nombre des élus, mais il doit courir sauver les âmes. Mais comment cela? Comment peut-il courir au-devant des pécheurs? Comment peut-il aller au-devant des pécheurs? Eh bien, l'Évangile continue. Va par les chemins et le long des haies et contraint d'entrer. Compelle intrare. Voilà bien une parole un peu étonnante. Compelle intrare. Contraint d'entendre. Contraint d'entrer. Oblige à entrer. C'est une parole un peu curieuse et qui vraiment choque et sonne faux à nos oreilles modernes. Peut-on contraindre quelqu'un d'entrer dans l'église? Peut-on contraindre quelqu'un d'entrer dans la salle du banquet? Toute la question est là. Le ministre de Dieu ne doit-il pas respecter la liberté? Alors il faut distinguer. c'est qu'une véritable contrainte, une véritable coaction, entraînerait certainement une hypocrisie. L'entrée dans l'Église et la conversion doivent être libres et de fait. Si l'on fait semblant de pratiquer la religion, cela ne sert à rien, bien sûr. Il y a bel et bien un droit à pratiquer librement la religion du Christ. Mais il n'y a pas de droit à pratiquer une fausse religion. Il n'y a pas de droit à commettre le mal. Il n'y a même pas de droit négatif à ne pas être contraint dans le domaine religieux. L'Église peut faire appel, elle doit faire appel au bras séculier, à la société civile, pour empêcher les doctrines et les religions fausses. L'État catholique doit réprimer l'erreur religieuse, l'erreur morale, l'erreur philosophique. La prudence politique peut entraîner la tolérance. La prudence politique, oui, mais pas le droit. Il n'y a pas de droit à la liberté religieuse. Il n'y a qu'une possibilité, une prudence, qui peut entraîner la tolérance. La tolérance, il y a des maisons pour ça, mais il n'y a pas de droit. Compelle intrare. Mais il faut dire plus tout de même, car l'invitation des serviteurs du maître ne saurait consister essentiellement à empêcher le mal, bien sûr. On ne va pas au ciel à reculons en regardant l'enfer. La vérité de l'évangile, ce n'est pas d'abord d'être antilibéral, antimoderniste, anticommuniste, etc. Non. Alors que veut dire compelle intrare? Que doit faire le serviteur pour contraindre d'entrer? En quel sens doit-il contraindre? Si nous essayons de nous mettre dans l'esprit de la parabole, nous pouvons l'imaginer un peu. Il faut vaincre les répugnances de ces pauvres. Il faut vaincre leur timidité. Ils n'osent pas. Il faut vaincre leur hostilité. Hostilité de façade. Hostilité due à diverses circonstances de leur vie qui ont pu les aigrir. Et puis il faut parler du banquet. Il faut parler de ce qui se sert dans ce banquet. Il faut parler de ce qu'on y joue, puisqu'il y a de la musique. Il faut parler des personnes qui s'y trouvent. Autrement dit, il faut parler des mystères qui sortent de la bouche du Seigneur. Il faut parler des mystères de Dieu. Il faut parler de l'amour du père de famille. Il faut séduire. Il faut attirer. Et on disait bien, on accusait bien notre Seigneur d'être un séducteur. Et pour tout cela, eh bien, il faut d'abord aimer. Il faut se mettre à la portée du pauvre. Du pauvre au sens matériel, mais du pauvre aussi au sens spirituel. Du pauvre pécheur, perdu dans sa misère. Il faut savoir l'écouter, il faut savoir le comprendre. Il faut se faire tout à tous. Le Christ, et donc le prêtre, ne peuvent pas être des maîtres arrogants et dominateurs, des polémistes. Le Christ polémique, c'est vrai, cela arrive parfois, souvent même, l'Évangile nous le dit. Mais notez bien, contre qui polémique-t-il ? Il polémique contre les pharisiens, mais il ne polémique pas contre les pauvres pécheurs. Le prêtre, essentiellement, n'est pas un homme de polémique. Alors regardons comment fait notre Seigneur. Regardons son accueil. Regardons sa douceur. La douceur avec Zachée, avec la femme adultère. Regardons la pédagogie qu'il emploie pour faire comprendre sa doctrine. Il s'est employé tous les moyens. L'art oratoire, si c'est nécessaire, bien sûr. Il s'est employé la poésie. Il s'est employé aussi les argumentations rationnelles. Il s'est employé tout simplement l'amitié. Il sait être intellectuel avec Nicodème, le poussant dans ses retranchements et allant à l'essentiel. Mais il sait également être très simple et s'adresser par des paraboles aux simples paysans de Galilée et de Judée. Il sait utiliser les moindres artifices pour attirer les âmes. Il commence par une simple conversation avec la Samaritaine, et de la simple eau matérielle, il l'élève jusqu'à l'eau de la grâce. Il se permet d'interpeller Zachée en pleine rue, alors que celui-ci se croyait bien dissimulé dans son sycomore. Nous pouvons voir aussi comment il apporte la vérité. Il l'apporte fermement, certes, il ne fait pas de concessions, mais avec toute la douceur, et progressivement. Il n'hésite pas à perdre ses disciples en exposant la vérité du pain de vie, mais c'est petit à petit qu'il expose sa divinité. Notre Seigneur ne déclare pas sa divinité explicitement dès le départ. Il la montre petit à petit, et encore à un petit groupe d'initiés, à ses apôtres. Ne voyons pas de là de la dissimulation, ni même une tactique, mais c'est plutôt la charité. C'est la charité qui comprend les besoins des âmes et qui leur donne ce dont elles ont besoin à l'instant même. Et si parfois il y a tactique ou méthode, cela est bien nécessaire, il y a d'abord et avant tout la charité, l'ouverture et la confiance à la grâce. C'est pourquoi notre Seigneur dit en toute vérité, « Je ne fais rien de moi-même, parce que ce que je fais, c'est le Père qui le fait. » Eh bien voilà, voilà en résumé ce que Jésus attend de ses prêtres. Exit chito, pars tout de suite, exit in via cette épaisse. Va par les voies et les chemins, et compelle intrare, et oblige à entrer, induit à entrer. Il faut sortir, il faut briser les frontières, il faut inviter au banquet divin, inviter tout d'abord, bien sûr, au banquet eucharistique. Conduire à l'Eucharistie, à la Sainte Messe, c'est la mission du prêtre. Et pour cela, il nous faut suivre l'exemple et les sentiments du bon pasteur que nous expose cet évangile. Ce n'est plus seulement une question de science. Ce n'est pas une question même de sens pratique, c'est une question de charité, tout simplement. Ceci, nous ne pouvons pas nous le donner, il nous faut le demander. Hoc enim sanctitate in vobis, quod est in Christo Jésus. Éprouvez en vous les sentiments du Christ Jésus. Sentiments, non pas des sentiments sensibles, sentimentaux, mais les actes profond et volontaire de notre Seigneur, autrement dit l'amour de notre Seigneur. Cet amour des âmes de notre Seigneur doit être le nôtre. Il nous faut nous assimiler à notre Seigneur Jésus-Christ. Le cœur du prêtre doit s'identifier au cœur de Jésus. Voilà le principe de tout apostolat. Et c'est ce principe qui nous donnera toutes les solutions. À la limite, nous n'avons pas trop à nous poser de questions sur les méthodes et sur les pratiques. Si nous avons vraiment la charité, le Saint-Esprit nous soufflera ce que nous devons dire. Et comment nous devons le dire? Il ne nous reste plus qu'à regarder vers le cœur de Jésus que nous fêterons vendredi prochain. Je vous enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, mes bien chers frères, nous débutons aujourd'hui le temps de l'Avent, premier dimanche de l'Avent, et en même temps, premier dimanche de l'année liturgique. Il n'est donc pas inutile, en ce début d'année liturgique, de nous interroger un peu sur le sens de cette année. Nous savons en effet que les mystères de notre salut, l'attente, la naissance, l'épiphanie de notre Seigneur, et puis ensuite son jeûne dans le désert, sa passion, sa résurrection, son ascension, puis enfin, le mystère de l'Église avec la Pentecôte et les dimanches après la Pentecôte, eh bien toute cette succession va décrire devant nous le mystère de notre salut, de telle sorte que les cérémonies de l'Église, les textes des épîtres et des évangiles, les chants, tout cela se déroule selon un ordre déterminé. Que signifie cet ordre? Pourquoi? À première vue, il nous semblerait qu'il s'agisse d'un déroulement historique, c'est-à-dire que les différents événements de la vie de notre Seigneur défilent devant nos yeux, et les évangiles nous racontent ces événements les uns après les autres. Sans doute y a-t-il quelques raisons historiques, mais dans ce cas, nous réduirions la liturgie à n'être qu'un mémorial, ou pire, un théâtre, ou une reconstitution. Il ne s'agit pas de cela, bien sûr. Et nous pouvons du reste constater que les successions des fêtes et la durée des temps correspondent assez peu et parfois même pas du tout à la succession chronologique. L'ordre de la liturgie n'est pas d'abord un ordre historique, c'est un ordre mystique et symbolique, même s'il retrace des événements historiques. Et c'est ainsi qu'il nous faut comprendre les différentes successions de l'année liturgique, et c'est ainsi peut-être qu'il nous faut comprendre ce dimanche qui introduit l'année liturgique et qui introduit le temps de l'Avent. L'évangile d'aujourd'hui traite de la fin du monde. Et de fait, l'année liturgique parcourt et expose l'histoire de notre salut jusqu'à la fin du monde. Cette fin du monde nous était déjà exposée dimanche dernier. Pourquoi nous est-elle répétée aujourd'hui ? Curieusement, le temps de l'Avent nous prépare à la fête de Noël. Il semblerait que la liturgie dût nous entretenir de la très sainte Vierge et de saint Jean-Baptiste, et c'est du reste ce qu'elle fera dans les semaines suivantes. Pourquoi répéter une nouvelle fois cet évangile ? Pourquoi cette répétition ? Pourquoi ces prédictions, prédictions qui, à première vue, semblent ne concerner que les chrétiens des derniers temps, ceux qui se trouveront précisément aux prises avec ces événements, et non pas nous ? Pourquoi ? Eh bien, nous comprenons alors, en nous posant ces questions, qu'il ne s'agit pas pour l'Église de nous répéter, d'enfoncer nos imaginations dans l'annonce d'un cataclysme final. L'intérêt de cet évangile n'est pas de nous faire trembler, de nous émotionner par la prédiction d'un gigantesque Tchernobyl. La liturgie va plus profond, elle s'adresse au cœur, elle s'adresse à l'intelligence, elle ne s'adresse pas à l'émotivité. Alors en fait, de quoi s'agit-il ? Quel est le sens de cet évangile par rapport au temps de l'Avent et par rapport au début de l'année liturgique ? Nous pourrions répondre ainsi, « In omnibus oportet respicere finem ». En toute chose, il faut considérer la fin. « Finis est causa causarum ». Autrement dit, plus simplement, avant toute chose, avant toute action, avant toute entreprise, pendant toute épreuve, avant tout abord la question « Pourquoi ?» Pourquoi tout cela ? Pourquoi donc l'année liturgique ? Et plus précisément, pourquoi l'avènement de notre Seigneur ? Eh bien, l'Évangile nous fournit la réponse. L'Évangile nous fournit la réponse par l'avènement glorieux de notre Seigneur. Le Fils de l'homme viendra sur une nuée avec grande puissance et majesté. Autrement dit, le Christ est le terme de l'histoire, et c'est pour lui que tout a été fait. Il est l'oméga. Et cet évangile proclame, et nous voyons par là qu'il ne s'adresse pas seulement aux chrétiens des derniers temps, bien sûr, cet évangile proclame que tout est pour la gloire du Christ, que tout est en vue de cet instant solennel où le Christ s'unira avec l'Église de ses élus dans une béatitude éternelle. Son premier avènement dans la chair est donc en vue de cet avènement final. Car qu'est-ce que l'avènement de notre Seigneur dans la chair ? Qu'est-ce que la fête de Noël ? Qu'est-ce que le mystère de l'incarnation ? C'est le mystère du Verbe fait chair. Et c'est ce Verbe incarné, ce Verbe fait chair, qui reviendra à la fin du monde. Notre Seigneur dans la crèche est oublié, humble, pauvre, inconnu. Tandis à la fin du monde, ce même Jésus-Christ, qui était enfant, resplendira de gloire dans le monde entier et pour l'éternité. Ce Verbe incarné commence à venir à la fête de Noël pour revenir plus tard, à la fin du monde, dans la gloire. Noël, c'est aussi le Verbe qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu se fait homme pour que l'homme accède à la dignité divine, comme le dit saint Léon dans son magnifique sermon pour la Nativité. Eh bien, cette venue de notre Seigneur à Noël est pour la venue dans les âmes. C'est pour venir dans les âmes que notre Seigneur vient à Noël. C'est pour que l'homme accède à la divinité que notre Seigneur vient à Noël. Et à la fin du monde, Jésus-Christ entrera dans la béatitude avec toute cette Église. Avec tous ses élus qui ont pris part à sa divinité, notre Seigneur resplendira de gloire. La gloire du Christ dans son Église éclatera à la fin du monde. Voilà pourquoi il y a le mystère de l'incarnation. L'avènement du Fils de l'homme, c'est la gloire du Christ qui éclate dans l'Église des bienheureux, Église qui a été fondée par son incarnation. Le mystère de l'incarnation, célébré dans les temps de l'Avent, de Noël et de l'Épiphanie, est donc en vue de la gloire éternelle du Fils de Dieu et de son Église. Et il faut en dire de même pour les autres temps de l'année liturgique. Pour la rédemption, le mystère de la rédemption qui est célébré pendant tout le temps de la Septuagésime, à Pâques et à la Pentecôte même, est aussi en vue de la gloire finale du Christ, en effet. Dieu aurait pu nous abandonner à notre péché. Dieu aurait pu effacer ce péché purement et simplement. Dieu aurait pu même empêcher le péché originel. Eh bien non. Dieu a permis tout cela et Dieu a préféré nous sauver par son Fils Jésus-Christ. La justice et la miséricorde de Dieu se rencontrent et s'identifient en Jésus-Christ. Misericordia et veritas obvia verunt sibi. La miséricorde et la vérité, c'est-à-dire la justice, se sont rencontrées. Elles se sont rencontrées en Jésus-Christ. La gloire du Christ est encore plus magnifique ainsi. La gloire du Christ est une gloire miséricordieuse, amoureuse. Le Christ est un Dieu qui s'approche de nous, qui vit nos souffrances, qui vit nos peines, qui se charge de notre fardeau. Comme le dit le Deutéronome, « Nec est alienatio tam grandis, quod abeat Deus appropinquantes sibi. » Il n'est pas de nation qui est des dieux tels, qui est un Dieu qui s'approche de lui. C'est pourquoi la liturgie peut chanter « Felix culpa, qui talem actantum meruit redemptorem »« Ô heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur !» Parce que notre adoration à la fin du monde, ce n'est pas l'adoration forcée devant un Dieu terrible, c'est un élan d'amour et de gratitude. Propter quod et Deus exaltavit illum. Il a été exalté par cette passion et par cette croix. Le Christ mérite la gloire qu'il tient déjà de sa divinité. Il la mérite par sa passion. Il la mérite pour nous avoir sauvés. L'avènement final du Christ n'est donc pas de glorieux d'abord parce qu'il condamne les tribus de la terre. Il n'est pas glorieux d'abord par les destructions et les cataclysmes. Il est glorieux parce que les élus s'élancent vers lui dans l'amour. Nos simul rapiemur in nubibus obviam Christo. Nous viendrons à la rencontre de Christ sur les nuées, et avec lui nous serons pour l'éternité. Voilà ce qui fait la gloire de l'avènement final du Christ. Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Voilà pourquoi la croix est présente à l'avènement, parce qu'elle est le signe de notre salut. Elle est le signe de notre rédemption. Elle est le signe de notre gloire avec Jésus-Christ. La permission du péché, la passion et la résurrection du Christ sont en vue de la gloire finale du Christ, sont en vue du dernier avènement. Et ainsi, ce mystère de la rédemption éclate avec plus de gloire et de magnificence au jour dernier, au dernier jour, dans l'avènement final. Et puis, enfin, le mystère de l'Église, mystère qui est célébré depuis la Pentecôte, lui aussi trouve son achèvement dans la venue du Christ au dernier jour. Parce que c'est au jour de l'avènement final que l'Église triomphe définitivement avec notre Seigneur. L'histoire de l'Église est une succession de victoires et de défaites. L'Église est humaine. L'Église a des faiblesses. Eh bien, au dernier jour, elle triomphe définitivement. Et c'est la liturgie éternelle qui nous est décrite dans l'Apocalypse. C'est la liturgie céleste. Ainsi donc, toute l'histoire du monde, tout le mystère du salut, toute l'histoire de l'Église s'achèvera dans le Christ au dernier jour. Cum autem subjecta fuerint ili omnia, tunc et ipse filius subjectus erit ei qui subdicit sibi omnia. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Christ sera soumis à celui qui s'est tout soumis, c'est-à-dire à Dieu. Toute la création sera soumise à notre Seigneur, et notre Seigneur pourra l'offrir à Dieu son Père. Tel est le sens de cet évangile par rapport à toute l'année liturgique. Nous voyons combien alors il introduit le temps de l'Avent, mais il introduit en fait toute l'année liturgique parce qu'il nous en donne la fin, parce qu'il nous en donne le but. Tout le mystère de notre salut, toute l'histoire de l'Église, tous les événements de notre Seigneur, toute la succession de l'année liturgique est en vue de ce dernier jour où le Christ reviendra dans la gloire pour entrer en possession de cette Église des élus qu'il aura fondée par son incarnation et par sa rédemption. Et c'est ceci qu'il faut comprendre pour trouver le sens de notre vie chrétienne, pour trouver le sens de ce temps de l'Avent. Tous les événements de notre vie, tous les événements du monde sont ordonnés et s'achèvent dans l'avènement glorieux du Christ. Le monde doit passer. Il est condamné à mort parce qu'il doit laisser place à un monde nouveau, à un royaume éternel. Ecce nova facio omnia. Voici que je fais toute chose nouvelle. Et c'est dans cette perspective que se déroule notre vie. Cet événement du Christ n'est pas une image, n'est pas une métaphore. Nous savons que ce sera une réalité. Et c'est ainsi qu'il nous faut tout juger. dans une perspective d'éternité. Nos actions, nos œuvres apostoliques, nos œuvres intellectuelles, nos œuvres artistiques éventuellement, toute réalité humaine, toute réalité ne vaut que par son poids d'éternité. À la limite, peu nous importe l'échec et la réussite. L'efficacité immédiate n'est pas notre but. Nous savons que toute œuvre humaine a un germe de corruption, même si elle est bonne, même si elle est excellente. Tous les saints ont jugé ainsi de leurs propres œuvres et des choses auxquelles ils tenaient le plus. Saint Augustin lui-même, très attaché à l'Empire romain, reconnut dans la chute de Rome le fait que toute réalité humaine était caduque et devait périr. Les moines eux-mêmes qui ont fondé la civilisation en Europe n'ont pas cherché à la fonder. Ils ont cherché le royaume de Dieu et sa justice. D'abord, essentiellement cela. Et cherchant le royaume de Dieu, ils se sont trouvés fonder la civilisation. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. C'était le royaume de Dieu au départ. Saint Thomas d'Aquin lui-même jugeait ainsi sa propre somme théologique. Il la jugeait comme étant de la paille. Non pas qu'il jugeât son œuvre inutile, certainement pas, mais en comparaison de l'éternité, en comparaison de ce qu'était vraiment notre Seigneur, en comparaison du jour dernier où tout doit disparaître, alors oui, cette somme théologique était, elle est de la paille. Contre le matérialisme ambiant, contre une recherche exclusive de l'efficacité immédiate, nous nous proclamons que nous cherchons des fruits éternels. Ce ne sont pas nos projets ambitieux, nos œuvres grandioses qui comptent. Toutes les œuvres, même les plus sublimes, œuvres apostoliques, monuments artistiques ou intellectuels, tout ce qui fait la grandeur même de la civilisation chrétienne, tout cela, oui, tout cela doit aussi disparaître un jour. Nous ne voulons pas construire un paradis terrestre catholique, mais nous voulons préparer l'éternité. Et lorsque l'échec survient, et il surviendra certainement, lorsque la réussite tarde à venir, lorsque nous semblerons nous dépenser en vain, il y a une chose qui, elle, demeurera pour l'éternité, ce sera la charité. La charité que nous aurons acquise, dans laquelle nous aurons cru au cours de ces travaux difficiles, cette charité, elle, demeurera pour l'éternité, même si nos œuvres s'écroulent. Même s'il nous arrive, ce qui arrivait à un saint, de voir sa propre congrégation qu'il avait fondée disparaître avant sa mort. Ce que nous aurons fait de plus grand, ce ne sera pas nos œuvres extérieures, ce n'est pas ce qui se voit. Ce que nous aurons fait de plus grand, ce seront les œuvres intérieures. Alors, si notre apostolat piétine, si la maladie nous immobilise, si nos études ne réussissent pas, si nos actions échouent, nous devons comprendre que ce que nous faisons de plus grand est encore invisible et n'apparaîtra qu'au dernier jour. Le premier terrain de mission sur lequel nous aurons à rendre des comptes, ce sera nous-mêmes. Tel est l'esprit qui doit être le nôtre au début de ce temps de l'Avent. Regardez les événements du monde et ceux de notre vie en fonction de l'éternité, en fonction du dernier jour. Emportés par le torrent de nos affaires, endormis sous nos routines, il nous faut ressurgir. Ressurgir en retrouvant le sens de notre fin ultime. Ora est iam destomo surgere. Surgir du sommeil de la tiédeur, surgir du matérialisme, surgir de l'activisme à courte vue. Nous ne bâtissons pas des œuvres terrestres. Tel est le sens de cet évangile. Il ne s'agit donc pas d'abord de pronostiquer des catastrophes et d'exciter l'imagination. Il s'agit du sens même de la vie chrétienne, du sens même de notre vie de créature. Cet évangile est donc proclamé par l'Église au principe de l'année liturgique comme au principe du temps, pour éclairer l'histoire, pour être une proclamation de foi, une protestation de foi contre tout naturalisme et contre tout hédonisme, protestation de foi contre les philosophies du monde. Le monde a une fin. Il s'avance vers son terme. Son terme est de plus en plus près. Il sera remplacé par une terre nouvelle. Toute créature retourne vers Dieu. L'histoire du monde et l'histoire de l'Église n'est que le retour de toute créature vers le principe d'où elle vient. Le Christ n'est pas le point oméga de l'évolution, mais il est l'oméga de l'histoire. Tous, bon gré mal gré, seront soumis à son règne éternel. Il y a donc une condamnation du monde, c'est-à-dire une condamnation de l'esprit du monde, un châtiment et une destruction. Mais plus encore, il y a la victoire du bien et de la justice. Et cet évangile est donc un chant d'espoir et de victoire. Dans ce monde moderne qui absorbe les personnes dans un gigantesque Léviathan, dans ce monde moderne qui efface et qui confond les traditions et les civilisations, dans ce monde qui détruit les facultés spirituelles et intellectuelles et qui enfouit la vérité et l'amour sous les ténèbres, l'Église proclame que ce monde et ses philosophies sont condamnés à mort. Elle proclame la victoire finale de la vie et de la lumière. Populus qui sedebat in tenebris, vidit lucem maniam. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.